Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Regard aujourd'hui sur un business illégal et surtout meurtrier dont les profits en constante expansion dépassent largement le trafic de drogue, la contrefaçon. Un phénomène qui s'est évidemment développé sous l'effet de la mondialisation grâce à la délocalisation des industries européennes et à la facilitation des moyens de transport maritime et aérien. Mais la mondialisation n'explique pas tout. La contrefaçon s'est aussi et surtout développée grâce à la mutation économique en faveur de l'hémisphère sud et de l'appauvrissement des classes moyennes de l'hémisphère nord et des populations en souffrance, au nord comme au sud, tout cela se trouvant aggravé par la mondialisation accélérée et exponentielle des réseaux criminels. La contrefaçon, c'est beaucoup d'argent. On estime les bénéfices de ce secteur autour de 600 milliards de dollars, une activité qui progresse de l'ordre de 20% par an. Produits de luxe et articles de sport nous viennent à l'esprit, mais on est loin du compte. La grande majorité des produits de contrefaçon sont des biens de consommation courants, alimentation, produits de santé, médicaments, tabac, matériaux et équipements de la construction, cosmétiques, jouets, voire pièces détachées d'avions, des produits qui se révèlent au bout du compte dangereux, voire mortels. Regard sur ce phénomène avec nos invités. Pierre Delval, criminologue, conseiller pour la lutte contre la contrefaçon auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et expert auprès des Nations Unies, président fondateur de WETO, organisation chargée de lutter contre les trafics illicites de produits non conformes, auteur de plusieurs ouvrages dont Le marché mondial du faux, crimes et contrefaçons, paru aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et Stéphane Quéré, spécialiste en menaces criminelles contemporaines et animateur du site spécialisé crime.org.com. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Delval, la contrefaçon est souvent considérée comme un délit mineur. Quelles en sont les raisons? Et peut-être pour commencer, qu'est-ce que l'on entend par contrefaçon?
Une contrefaçon est une copie, plus ou moins servile, d'un produit, quel qu'il soit, à partir du moment où ce produit est un produit marchand. Et cette copie est une atteinte au droit de la propriété intellectuelle et industrielle. Mais au-delà de la notion juridique d'atteinte au droit de la propriété intellectuelle et industrielle, la contrefaçon, c'est d'abord un produit non conforme qui ne répond pas à des règles de sécurité et de santé publique. Pour ce qui concerne, bien évidemment, les biens matériels. Les biens immatériels, logiciels, cinéma, les films, la musique, tout cela, bien évidemment, ne répondent pas aux mêmes critères de conformité. Donc, nous parlerons plus particulièrement des biens matériels.
Alors, je le disais, la contrefaçon considérée comme un délit mineur?
Malheureusement, c'est un délit mineur. Dans de nombreux pays de l'hémisphère nord, il y a aujourd'hui une augmentation des peines pour rendre le système beaucoup plus dissuasif en matière de contrefaçon. Mais si dans l'hémisphère nord, il y a une volonté de vouloir punir sévèrement la contrefaçon, dans l'hémisphère sud, malheureusement, la démarche n'est pas suivie de la même manière et ça reste un délit mineur, ce qui porte bien évidemment les criminels à s'orienter sérieusement sur ce marché.
Stéphane Quéré.
Oui, le problème aussi dans l'hémisphère sud, c'est qu'il y a un manque de moyens et c'est pas la priorité évidemment dans ces pays-là. Pourtant, et je pense qu'on va reparler tout à l'heure, notamment en matière de santé publique, il y a un vrai défi, notamment pour l'Afrique, pour les médicaments de contrefaçon, qui au mieux ne soignent pas et au pire aggravent les cas. Donc il y a un vrai défi, notamment dans les pays du Sud, pour lutter contre ce type de contrefaçon, les contrefaçons dangereuses. Évidemment, dans les pays d'Afrique notamment, on a peu de contrefaçons, encore que de marques de luxe, de maroquinerie de luxe. Le gros problème reste les contrefaçons dangereuses, médicaments, mais aussi tabac, par exemple.
Alors, on va expliquer un petit peu le rôle de la mondialisation. Et Pierre Delval, la contrefaçon, ce qui vient en premier, c'est effectivement ce que vous évoquiez, ce que j'évoquais en introduction, les produits de luxe. Est-ce que c'est ce par quoi la contrefaçon a commencé et comment expliquer cette évolution ensuite?
La contrefaçon a commencé avec les médicaments. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mais au 19e siècle, la notion de contrefaçon a surtout été mise en avant avec les médicaments. Il faut savoir d'ailleurs que une association en France qui s'appelle l'Union des fabricants, l'Unifab, a été créée à la demande de l'industrie pharmaceutique de l'époque pour lutter contre les atteintes au droit de la propriété intellectuelle et industrielle, et notamment les atteintes sur les brevets. Donc, vous voyez, ça a commencé par les médicaments, mais très vite, bien évidemment, la marque, et notamment dans le domaine du luxe, la marque a pris position en matière de contrefaçon, et aujourd'hui, de nombreuses grandes marques luttent contre ce phénomène. Le souci, c'est que la presse, malheureusement, s'est beaucoup trop focalisée sur le sujet du luxe, a laissé d'un peu de côté toutes les autres menaces qui sont pourtant les plus importantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la contrefaçon du luxe ne représente au niveau mondial que presque 8% du problème de la contrefaçon. Tout le reste concerne des produits, essentiellement des biens de consommation.
Alors, des biens de consommation courante et des biens alimentaires, et c'est là que réside le danger. Alors, on a connu en France et en Europe le scandale de la viande de cheval qui a éclaté en 2013 et qui a placé la fraude alimentaire sous le feu des projecteurs. Quelle distinction et où se situe la frontière, Stéphane Quéré, entre fraude et contrefaçon?
Pour la fraude alimentaire, il n'y a pas d'atteinte au droit de la propriété intellectuelle. C'est évidemment, ça peut l'être d'ailleurs, mais c'est évidemment la même logique. C'est-à-dire qu'on a, notamment depuis quelques années en Europe, un marché qui apparaît de gens qui cherchent à acheter des choses, des objets à bas prix. Donc ça peut être évidemment des aliments, ça peut être des disjoncteurs électriques. On a une recherche du bas prix parce que c'est la crise et parce qu'on essaye de rogner tout ce qu'on peut. Face à ça, il y a des groupes criminels, il y a des groupes affairistes qui vont en profiter pour vendre des choses qui ne sont pas conformes, que ce soit donc de la contrefaçon et que ce soit des aliments au contenu douteux, en tout cas frauduleux. Donc on a deux choses, mais c'est la même logique. Ce qui est contrefaçon, contrebande et fraude, c'est la même logique, c'est-à-dire fournir un marché qui est de plus en plus demandeur parce que de plus en plus en crise.
Alors, Pierre Delval, j'ai trouvé un chiffre qui me semble, et je pense aussi que ce sera partagé par nos auditeurs, absolument effrayant. Plus de 2 milliards de par le monde de consommateurs qui souffriraient de troubles liés à des produits non sûrs, fraudés ou contrefaits.
Absolument, c'est-à-dire que aujourd'hui, de manière directe ou indirecte, nous savons, et ce sont notamment des chiffres de l'OMS, nous savons que 2 milliards d'individus dans le monde, chaque année, ont été touchés directement ou indirectement par des biens de consommation courante, contrefaisants ou fraudés. Et parmi ces 2 milliards d'individus, 40% d'entre eux auront à terme des effets secondaires suite à ces produits contrefaisants ou fraudés.
Est-ce qu'on a des exemples ?
Oui, par exemple dans le domaine du tabac. Alors vous allez me dire, le tabac, évidemment, c'est un produit toxique, mais le tabac, lorsqu'il est contrefait, est 8 à 11 fois plus carcinogène que le tabac normal. Pourquoi ? Parce que dans le tabac, vous avez par exemple des métaux lourds comme le cadmium qui sont issus des pesticides qu'on utilise sur les feuilles de tabac. Lorsque vous êtes fabricant de tabac ayant pignon sur rue, eh bien vous nettoyez ces pesticides au moment de la cueillette des feuilles pour ensuite en faire du tabac. Eh bien, lorsque vous êtes un contrefacteur, vous vous embêtez pas avec toutes ces précautions. Et donc, à partir de ce moment-là, vous fabriquez vos tabacs en conservant, sans nettoyer le tabac, en conservant justement ces pesticides. Résultat des courses, ce sont des produits extrêmement cancérigènes. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous achetez du tabac de contrebande, c'est-à-dire que vous croyez être le même tabac que celui qui est vendu chez le buraliste, en fait, la plupart du temps, c'est du tabac de contrefaçon. Et ce tabac, on le sait aujourd'hui, va toucher les adolescents qui sont les premiers à acheter ces tabacs dans la rue parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et on sait que ce sont les adolescents qui seront les premiers touchés d'ici une dizaine d'années par des cancers à haut niveau et donc bien évidemment, et dans de très fortes proportions.
Vous parlez de cancer, donc cancer, pour se soigner, il faut des médicaments. Donc j'imagine que ce que vous évoquez là sur la question à proprement parler des cigarettes et du tabac, pour les médicaments, on se retrouve face à des situations de personnes qui pensent se soigner, alors qui contre un cancer, qui une autre maladie, avec des médicaments qui n'ont rien à voir avec avec ce qui devrait être, Stéphane Carré.
Alors on a évidemment des contrefaçons de médicaments, des médicaments de première nécessité, antalgiques, anti-inflammatoires, antibiotiques, aspirines, etc. Bon, là, c'est pas si grave que ça, encore que. Mais pour revenir sur le cancer, il y a des médicaments anticancéreux qui sont contrefaits. Il y a une enquête actuellement en cours en Italie, par exemple, sur des produits anticancéreux qui sont contrefaits. On a constaté en Europe des vols de ces médicaments, soit dans des hôpitaux, soit dans des sociétés de transport. Ces vrais médicaments sont récupérés, les boîtes sont récupérées, et il y a a priori une diffusion avec des médicaments contrefaits, c'est-à-dire sous-dosés, voire inexistants. Et là, ce serait un réseau, une association entre affairistes russes basés à Chypre, Mafia de l'Est et Camorra napolitaine. Donc vous voyez, on est dans ce genre de d'organisation criminelle. Donc voilà, tout le cheminement est peut-être contrefait, c'est-à-dire vous fumez des cigarettes de contrebande, contrefaçon, et vous avez des cancers qui apparaissent, vous voulez vous soigner et vous pouvez tomber sur des médicaments contrefaits également, sachant que dans l'exemple que je vous ai donné, il semblerait que les médicaments contrefaits en question, anti-cancer, se diffuse notamment en Finlande et en Allemagne. Donc voilà, il n'y a pas que les pays du Sud qui sont touchés, il y a aussi de plus en plus les pays occidentaux.
Vous écoutez Géopolitique, Marie-France Chatin.
On reviendra sur la géographie et puis bien évidemment aussi sur les liens donc avec le crime, voire avec le terrorisme. Mais tout d'abord, Pierre Delval, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors on évoquait bien sûr le facteur mondialisation qui a permis cette montée en puissance de cette contrefaçon, contrebande, fraude, etc. Le rôle d'Internet, il est évidemment extrêmement important.
Alors le rôle d'Internet est crucial dans le sens où, comme tout le monde le sait, Internet, c'est du commerce sans frontières. Donc il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas, en tout cas, de vente surveillée. Ce sont, bien évidemment, comme tout le monde le sait, une manière de pouvoir acquérir des produits à bas coût. À partir de ce moment-là, tout est possible sur Internet, et vous avez là tous les moyens de faire la promotion de produits parfaitement non conformes. Alors là, à partir de là, la frontière devient compliquée pour les acheteurs, puisque, un, ils n'ont pas la capacité de pouvoir déterminer si le produit est conforme ou pas conforme. Deuxièmement, ils ne savent pas si la marque qui est représentée sur ce produit est une marque authentique ou une marque contrefaisante. Ensuite, ils ne savent pas si ce produit est autorisé à une autorisation de mise sur le marché, par exemple on parlait de médicaments, à une autorisation de mise sur le marché dans tel ou tel pays. Bref, il y a une confusion des genres et évidemment il y a là des risques majeurs à acheter des produits sur Internet. Et donc à partir de ce moment-là, on peut attendre beaucoup de l'Internet en matière de développement des marchés de la contrefaçon. Alors bien sûr, c'est une situation qui se développe actuellement. Bien sûr, il y a de nombreux pays qui tentent aujourd'hui de mener un combat de front par rapport à ces ventes illicites. Mais il est clair que le développement ne cesse de progresser. Pas dans des quantités aussi importantes qu'on voudrait le dire, pour une raison très simple, c'est que, en règle générale, quand on vend sur Internet, ça veut dire acheter un produit, généralement des produits à l'unité, ou presque en tout cas, et envoyer par colis postaux d'un pays vers un autre. C'est là que il y a un certain nombre de forces de police, de douane, qui peuvent maintenant contrôler directement dans les zones de fret, dans les zones postales, pour pouvoir contrôler les marchandises. Mais on reste là encore dans d'un contrôle unitaire. La grande évolution qui se passe aujourd'hui sur certains types de contrefaçons dont on ignore totalement l'existence, c'est par exemple celle des produits de masse. on promeut, on vend sur Internet des produits de masse, comme les matériaux, équipements de la construction, par exemple. Et directement après la vente, les produits sont envoyés par camion sur chantier. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voyez une nouvelle évolution par l'Internet du commerce illicite, où vous faites la promotion sur Internet, vous commercez et vous achetez sur Internet, et on vous livre directement en masse les marchandises sur site. Et donc là, on voit une nouvelle évolution de la vente des produits de contrefaçon de masse à travers Internet. Et là, on n'est plus dans la vente à l'unité par des colis express, mais on est là, on se retrouve sur des marchés de masse grâce et à travers, justement, Internet.
Alors, pour juste approfondir un tout petit peu cette question, contrefaçon de matériaux de construction, globalement, à quoi fait-on face? Des produits qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont brevetés, réglementés, et on va construire des immeubles, des usines, avec des risques énormes. C'est cela qu'il faut entendre,
alors,
Pierre Elval?
Oui, c'est de cela dont on parle. Le problème, c'est que sur ce sujet-là, depuis quelques années, il y a une omerta totale de la part des entreprises du bâtiment. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des problématiques d'assurance derrière tout cela, que les compagnies d'assurance sont inadaptées par rapport à ce type de contrôle technique et d'expertise, et que là, il y a tout un travail de fond à voir sur ce sujet. Je vous disais qu'une contrefaçon, c'est d'abord un produit non conforme. Nous sommes dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire que ces produits-là sont d'abord et avant tout non conformes, ne répondent pas aux exigences techniques et de sécurité qui sont demandées, et on se retrouve avec de nombreux produits qui sont ainsi commercialisés. Il y a une étude qui a été faite récemment par la Fédération française du bâtiment sur le sujet, dans laquelle j'ai eu le plaisir de travailler, et il est très clair que nous avons, par exemple, en France, identifié 4 domaines sur lesquels il y a ces phénomènes identifiés. Le domaine, par exemple, de l'électricité, bien évidemment, mais de la plomberie. Le domaine de l'isolation et notamment des fenêtres. Et puis, dans le gros œuvre, tout ce qui est maçonnerie et autres produits, on va dire, de construction de matières brutes. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, tous les domaines sont concernés. Ce secteur qui maintenant commence à se dévoiler dans le domaine de la construction en est un. Et on voit bien qu'il y a réellement, à travers ces nouvelles menaces, des risques majeurs pour le futur. Alors, en France, c'est une chose. En Afrique, dans les zones de séisme, c'en est une autre, par exemple.
Alors, donc la France pas épargnée. Qu'est-ce que l'on peut dire? Juste peut-être revenir, pour rebondir sur ce que vous disiez, Pierre Delval, et on terminera justement l'émission peut-être sur cette question de la construction. On a une idée du pourcentage de la contrefaçon sur la construction par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure en disant que les produits de luxe étaient 8 à 10% de la contrefaçon. Finalement, les produits de construction sont en train de prendre un véritable essor?
Pour ce que nous savons aujourd'hui, les matériaux équipements de la construction au niveau mondial représenteraient 5% du marché. Mais pour ce que nous savons, je pense que le marché est beaucoup plus vaste que celui-là. Et je tenterai une réflexion autour de 20 à 25% aujourd'hui du marché mondial de la construction, où on sait que les matériaux et les équipements ne sont pas conformes.
Et donc, un secteur, ce que vous disiez précédemment dans l'émission, en évolution et en progression constante, c'est la contrefaçon, c'est une progression de 20% par an. Il sera évidemment intéressant de savoir quels sont les moyens pour lutter contre ce phénomène. Et puis, nous aborderons aussi dans la deuxième partie de l'émission les questions de géographie et peut-être une sorte de géopolitique de la contrefaçon. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Pierre Delval et Stéphane Quéré dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la contrefaçon. Nous retrouvons nos invités, Pierre Delval, criminologue, conseiller pour la lutte contre la contrefaçon auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et expert auprès des Nations Unies, président fondateur de WETO, organisation chargée de lutter contre les trafics illicites de produits non conformes, auteur de plusieurs ouvrages dont Le marché mondial du faux, crime et contrefaçon paru aux éditions du CNRS, et Stéphane Quéré, spécialiste en menaces criminelles contemporaines, animateur du site spécialisé crimorg.com. Stéphane Quéré, qu'est-ce que l'on peut dire de la géographie de la contrefaçon dans le monde? Qui sont finalement les pays les plus concernés? Pays producteurs d'un côté et puis pays pillés, entre guillemets, de l'autre.
Alors, tous les chiffres donnés par l'Organisation mondiale des douanes remarquent que la majorité des produits contrefaits en nombre ou en valeur pécuniaire viennent d'Asie, plus particulièrement de Chine.
Chine et Inde.
Et Inde aussi, qui commence à se développer. Alors, faut quand même dire aussi que les services chinois commencent à se mobiliser sur le phénomène. Pour plusieurs raisons, parce que tous les ans, le rapport de l'Organisation mondiale des douanes les pointe du doigt, ça fait mauvais genre, premièrement. Deuxièmement, ils commencent à avoir en Chine des usines qui produisent eux-mêmes, dont les produits sont contrefaits, donc ça aussi, ça pose problème. Et puis, troisièmement, il y a l'apparition en Chine d'une classe qui commence à avoir de l'argent et qui commence à acheter des produits, et ils se retrouvent face à des produits non conformes. Donc il y a une pression de cette classe moyenne qui apparaît en Chine pour avoir des produits de qualité. Donc tout ça fait que ça bouge un peu en Chine. On est encore loin de la perfection. Mais voilà, donc la Chine et de plus en plus l'Inde sont à l'origine des produits de contrefaçon. Et les pays destinataires, c'est tout le monde. Là où il y a de l'argent, donc en Amérique du Nord, en Europe occidentale, là où il y a un besoin pour certains produits, notamment les médicaments, l'Afrique, l'Asie aussi, bien sûr, c'est en interne aussi. On s'aperçoit également que certaines productions qui avant étaient en Chine ou en Asie viennent dans les pays occidentaux. On a l'exemple, par exemple, au Canada, d'une opération menée par la police locale qui a permis de saisir une presse de comprimés qui permettait de faire du Viagra. La presse venait de Chine, donc où était produit avant le Viagra, et était produit au Canada même. Même chose en Italie, on a des productions de contrefaçon textile dans les Chinatown d'Italie, et on a aussi des contrefaçons toujours textiles de très grande qualité dans la région de Naples, où la Camorra emploie des artisans de grande valeur pour créer ses sacs Armani, Gucci, Cartier et autres. Il y a les deux, il y a production chinoise ou asiatique plus généralement de moyenne basse qualité, et on a un déport vers les pays occidentaux de contrefaçons de plus grande qualité.
Alors, Pierre Delval, Stéphane Quéré évoquait les mafias. Le lien entre contrefaçon et mafia, il est effectivement direct. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, d'abord, pour compléter simplement le point de vue de Monsieur Quéré, il faut savoir que la Chine, aujourd'hui, c'est un peu plus de 80% du marché de la contrefaçon dans le monde. Mais il faut savoir aussi que la Chine, c'est l'arroseur arrosé. Monsieur Quéré en parlait un peu. Il faut savoir que sur 100 produits de contrefaçon fabriqués en Chine, 30 sont exportés à l'étranger. Donc ça représente les 80% que je citais précédemment. Et les 70 autres produits fabriqués en Chine, eux, restent en Chine. Ça veut dire que les Chinois sont extrêmement impactés par les produits de contrefaçon.
Même chose pour l'Inde, par exemple, puisque ce sont les deux plus gros.
Il faut savoir que ensuite, nous remarquons une déspécialisation sur un certain nombre de produits par pays. Chine, Inde et n'oublions pas maintenant le Brésil sont identifiés aujourd'hui comme étant les grands fabricants, par exemple, de produits pharmaceutiques de contrefaçon. D'autres types de produits, les alcools blancs, Ukraine et Russie et Pologne.
Vodka essentiellement, mais pas seulement.
Vodka essentiellement. N'oublions pas quand même qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu 40 000 décès en Russie, un peu plus de 40 000 décès en Russie, et suite à la vente de vodka frelaté. Donc on est bien dans un contexte quand même où il y a un certain nombre de pays comme ça qui se sont spécialisés au fil du temps sur un certain nombre de sujets. Alors pour revenir à votre question, il faut savoir que aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que les organisations criminelles sont des organisations prédatrices. Ça veut dire qu'à partir du moment où elles identifient une tendance sur un marché, elles vont chercher les industriels pour fabriquer les produits qu'ils souhaitent pour les commercialiser au niveau international ou sur une région déterminée. Donc ce sont d'abord des prédateurs, ces criminels, c'est des prédateurs qui vont chercher à faire le maximum de revenus en un minimum de temps. Et ça, c'est un point très important à comprendre dans le phénomène du développement de la contrefaçon aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que ces organisations criminelles se parlent entre elles. Nous avons par exemple la preuve que le cartel colombien... Cartel de drogue. Blanchissent maintenant une partie de leur argent, de leurs revenus sur les narco-dollars, en Chine pour la construction d'usines high-tech, en accord avec les triades chinoises, pour pouvoir justement développer des produits de contrefaçon particulièrement complexes à fabriquer, comme par exemple les cartes à microprocesseurs ou des pare-brises d'automobiles qui ont une forme très particulière, c'est les pare-brises en forme bombée. Mmh. Et donc, pour arriver à fabriquer ces pare-brises-là, même s'ils sont non conformes, ils ont besoin de moules extrêmement complexes, de machines de taille gigantesque. Et pour en arriver à fabriquer ça, il faut bien évidemment des usines ultra sophistiquées. Et donc, ça représente des coûts. Donc, ils n'hésitent pas à blanchir 30% des narco-dollars pour investir dans des usines, et de ces usines sortent des produits qui sont immédiatement récupérés par les triades chinoises pour une exportation un peu partout dans le monde.
Donc là, on est sur le lien contrefaçon, trafiquant de drogue et mafia. Pierre Delval.
Absolument. Nous sommes là dans un rapport total au niveau de contrefaçon et crime organisé. Le crime organisé a parfaitement bien identifié l'intérêt de développer ce marché pour une raison très simple. Maximum de revenus et très faible pénalisation de ces produits. Donc à partir de ce moment-là, il y a tout intérêt à continuer de travailler et à développer sur ces marchés-là. Et d'ailleurs, on le voit très bien, on n'a pas encore la preuve, mais là, il y a tout un travail criminologique sur ce sujet. La constatation des vases communicants dans certains pays entre une baisse de la consommation de la drogue et une augmentation de la contrefaçon. Alors maintenant, il faut arriver à faire un lien direct entre les deux, mais on voit bien quand même qu'il y a là, en tout cas si on est un chef d'entreprise éclairé, on voit bien tout l'intérêt à vouloir développer la contrefaçon plutôt que la drogue, pour une raison très simple, ça rapporte beaucoup plus et c'est beaucoup moins pénalisé.
Et alors, le lien qui est évoqué ici et là avec le terrorisme, Pierre Delva, est-ce que on peut aller plus loin et qu'est-ce que vous auriez à nous en dire ?
Alors, sur ce que nous constatons aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas d'exemple où nous remarquons qu'une partie des financements du terrorisme sont attachés à du trafic illicite de marchandises non conformes ou contrefaisantes. Pendant une certaine période, on parlait de Monsieur Marlboro, qui était un djihadiste algérien, qui développait ses groupes terroristes dans le Sahara, qui se finançait pour partie grâce à la contrebande de tabac, d'où le nom de Monsieur Marlboro. Et donc il faut savoir qu'il y a des cas avérés de financement direct entre contrebande, contrefaçon et terrorisme. On a d'autres exemples aujourd'hui qui permettent de garantir et d'assurer que le trafic illicite de marchandises finance pour une grande partie un certain nombre de territoires. Nous sommes en train de travailler notamment actuellement, et il y aura très prochainement une agence nationale en Tunisie qui va être créée sur ce sujet, sur le fait que le terrorisme qui se développe dans la zone subsaharienne jusqu'en Libye et voire même en Tunisie, est lié tout simplement directement aussi à un trafic illicite qui se passe entre le Bénin et la Tunisie, et ensuite entre la Tunisie et l'Europe. Et que ces trafics illicites financent tout ou partie de ces organisations terroristes qui voient à travers ça un profit extrêmement rapide pour pouvoir opérer ces financements de groupes terroristes dans la zone.
Alors, trafic illicite qui repose sur des biens particuliers, Pierre Delval ?
Trafic illicite sur un certain nombre de marchandises. Alors, trafic illicite en matière de contrebande, essentiellement sur tout ce qui concerne le pétrole, l'essence et autres. Mais vous avez
c'est assez
aussi,
classique.
C'est assez classique. Le tabac, l'agroalimentaire et les médicaments.
Un commentaire, Stéphane Quéré, sur ce qui vient d'être dit aussi... et ce monsieur Malboro qu'évoquait Pierre Delval.
Oui, c'est djihadiste le jour et contrebandier la nuit. Contrebande, contrefaçon, toujours dans la même logique. On a aussi l'exemple du mouvement républicain dévoyé, donc les héritiers de l'IRA en Irlande, qui sont sans doute la plus grosse organisation de contrebande de tabac, alors vrai et faux tabac, en Irlande. Ces réseaux-là, liés à l'IRA, regarde de très près la prochaine législation irlandaise qui va faire passer le paquet blanc de tabac, de cigarettes, qu'on trouve déjà en Australie. Et ce seraient les mêmes réseaux, notamment a été identifié un homme d'affaires malaisien basé en Espagne, qui alimente déjà le marché australien en cigarettes de contrefaçon, qui va sans doute passer un accord avec ces gens... ces républicains dévoyés pour alimenter le marché irlandais en cigarettes de contrefaçon. Parce que dans la cigarette de contrefaçon, il y a deux contrefaçons. Il y a la cigarette en tant que telle et il y a le paquet. Donc là, on saute l'étape du paquet. Le paquet est blanc, donc extrêmement facile à contrefaire, évidemment. On en parlait, les organisations criminelles sont très opportunistes. Il y a une faille dans la loi, donc ils vont s'y précipiter comme ils s'y sont précipités en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Vous écoutez RFI.
Alors, on l'a compris, la contrefaçon, c'est beaucoup de manque à gagner. Hein. On évoquait en début d'émission les bénéfices du secteur de la contrefaçon, autour de 600 milliards de dollars par an. Vous évoquiez, Pierre Delval, tout à l'heure, la très faible pénalisation. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de la façon dont les pays s'y prennent pour lutter contre la contrefaçon? Alors, tout ça se passe à plusieurs niveaux. Bien évidemment, il y a les gouvernements, comment est-ce qu'ils se protègent, les entreprises elles-mêmes, et puis il y a, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, le consommateur, dont la sensibilisation finalement reste et demeure assez insuffisante. Pierre Nalual.
Oui, alors là, il faudrait une émission complète pour répondre à cette question.
Vous serez peut-être réinvité.
Ce qu'il faut retenir déjà, et c'est le premier constat, c'est qu'il y a un décalage total entre la volonté politique et le développement des organisations criminelles sur les trafics illicites de produits de contrefaçon.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de volonté politique ?
Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de volonté politique, il y a un décalage. C'est-à-dire qu'entre le moment où les politiques réfléchissent, en concertation souvent avec les professionnels, c'est-à-dire les titulaires de droits, les propriétaires des marques, des brevets et autres, réfléchissent à un moyen de pouvoir faire évoluer les lois pour lutter efficacement contre ces phénomènes. Et le moment où les lois sortent, il faut attendre bien souvent entre 7 et 10 ans. Et entre-temps, les organisations criminelles, bien évidemment, sont passées à autre chose et font autre chose et s'adaptent au marché du moment. N'oublions pas toujours cette notion du prédateur. C'est-à-dire, il suit la tendance. Donc lui, il ne va pas attendre 10 ans pour mettre en place quelque chose. C'est immédiat. Très grande flexibilité, très grande réactivité. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut dire aujourd'hui que les lois sont inadaptées. Que ça soit dans l'hémisphère nord, comme dans l'hémisphère sud, évidemment. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve dans des situations où on est sur des menaces émergentes permanentes au niveau de la contrefaçon, parce que ça touche à l'économie, ça touche à la stabilité politique des États les plus fragiles. Et puis, ça touche bien évidemment au problème de sécurité et de santé publique des citoyens. Et donc, on est dans un cas de figure où tant que les États ne comprendront pas que la contrefaçon est un acte pénal, criminel, et tant qu'on laissera faire les titulaires de droit à s'arranger avec les contrefacteurs qui ont été arrêtés pour avoir un dédommagement financier plutôt que pour les pénaliser sévèrement, eh bien, on n'y arrivera jamais. Et les contrefacteurs le savent, les organisations criminelles le savent, et font tout aujourd'hui pour continuer cette activité parce qu'il n'y a rien de véritablement sérieux devant eux. Ça, c'est le premier constat que nous pouvons faire. Le deuxième point qui est très important, c'est que les titulaires de droit, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens juridiques qui sont mis à leur disposition. Mais pour un certain nombre, il faut aussi reconnaître que les titulaires de droit s'arrangent avec les contrefacteurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils préfèrent une indemnisation financière que de les envoyer au pénal pour être lourdement sanctionnés.
Donc ça part dans pertes et profits, c'est cela qu'il faut entendre.
Pertes et profits, ou alors un dédommagement financier substantiel. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Les organisations criminelles gagnent chaque année plus de 600 milliards d'euros. S'ils dédommagent pour quelques centaines de milliers, voire quelques, au mieux, dizaines de millions d'euros des titulaires de droits, ça ne résout pas le problème. Donc ça résout sûrement le problème pour le titulaire de droits, pour un certain cas de figure, mais de toute façon, ça va être, ils vont recommencer, les criminels. Donc c'est clair que là, il y a un vrai problème de fond. Quant aux consommateurs, alors ceux-là, malheureusement, on a trop souvent dit qu'ils étaient complices des contrefacteurs, pour une raison très simple, c'est qu'ils achetaient en sachant pertinemment que les produits sont des produits qui sont des produits de contrefaçon. C'est peut-être le cas pour les produits de luxe, c'est sûrement pas le cas pour des produits touchant à des problèmes de sécurité et de santé publique. Et là-dessus, il y a un vrai drame social. En Afrique, en Asie, mais aussi maintenant en Europe, puisqu'il ne faut pas se leurrer. Vu la situation économique de l'Europe, il y aura forcément un cadre moins rigide en matière de contrôle sur la santé. Et il y aura forcément des pauvres encore plus pauvres et des gens dans le besoin qui chercheront par tous les moyens une manière de pouvoir se soigner, une manière de pouvoir s'alimenter et donc chercheront les produits les plus bas et donc forcément tomberont sur des produits de contrefaçon et en tout cas des produits non conformes et donc dangereux.
Donc une double peine, c'est ce que j'entends, Pierre Delval, pour les consommateurs, appauvrissement de nos sociétés et recours à des produits de contrefaçon. Un commentaire, Stéphane Quéré, en réaction à ce que vient de dire Pierre Delval.
On peut quand même dire que quand vous allez sur Internet acheter tel ou tel médicament ou pour acheter des cigarettes, quelque part, vous êtes un peu responsable de ce qui vous arrive. Vous mettez votre carte bancaire sur Internet pour acheter des cigarettes qui vont peut-être être saisies en plus par les douanes. Donc, il y a des risques de fraude, d'escroquerie. Et en plus de ça, vous participez à un commerce illégal. Donc, faut aussi sensibiliser les gens aux risques qu'ils courent d'acheter sur Internet, que ce soit des cigarettes ou de plus en plus des médicaments.
Pierre Delval, pour terminer l'émission, si on se tourne vers le futur, vers l'avenir, c'est assez effrayant tout ce que vous nous avez raconté et je vois mal comment les choses pourraient évoluer de manière moins favorable pour les contrefacteurs.
Alors, il y a quand même de la lumière au bout du tunnel pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est qu'il y a une prise de conscience qui commence à se faire dans un certain nombre d'organisations et d'institutions, notamment politiques, pour justement lutter contre ce phénomène. Je retiens notamment une décision qui s'est prise il y a plusieurs années de cela au Conseil de l'Europe sur le principe de considérer les médicaments de contrefaçon comme un acte criminel. C'est ce qu'on appelle la convention Medicrime, qui est une convention qui justement place la contrefaçon des médicaments à un niveau purement criminel. Ça, c'est une vraie évolution, puisqu'il y a une réelle prise de conscience que l'acte de contrefaçon est un acte criminel. N'oublions pas ce principe de criminalité qui est fondamental. Et puis, il y a des organisations et surtout des pays qui prennent conscience aujourd'hui qu'il faut travailler de manière quasiment guerrière contre ce phénomène. J'en ai parlé tout à l'heure, par exemple la Tunisie qui va créer cette agence nationale. Et ça, c'est une véritable évolution vers une efficacité plus grande en matière de lutte contre ce fléau.
Voilà, donc des petits spots de lumière. Merci Pierre Delval, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Pierre Delval, donc criminologue, conseiller pour la lutte contre la contrefaçon auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et expert auprès des Nations Unies, président fondateur de WETO, organisation chargée de lutter contre les trafics illicites de produits non conformes. Pierre Delval qui est aussi notamment l'auteur de Le marché mondial du faux, crimes et contrefaçons, paru aux éditions du CNRS, et Stéphane Quéré, spécialiste en menaces criminelles contemporaines, animateur du site spécialisé crimorg.com, crimorg sans e entre crime et org. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook Géopolitique Le Débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À très bientôt.